Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le cadre de mon émission Bienvenue chez le roi, je vous propose une saga romantique dont je suis l'auteur. Dans les Lumières de l'amour, je vous entraîne à la cour de Louis XV avec le prince russe Victor Casbec et la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle. Dans la précédente émission, Marie-Angélique a dit adieu à son insouciante jeunesse en compagnie de ses amis Anne Augier de Maintenon, Guillaume de la Danière et Bertrand de Ruillé. Dieudonné Couette était un vieux curé, doué d'un solide bon sens, un pragmatique, un homme d'expérience. La foi dans le ciel, certes, mais les pieds bien plantés sur la terre. Il avait une histoire très particulière, presque étrange. Septième fils de sa mère, Baptistine, on lui avait prêté dès sa naissance les pouvoirs d'un marcou. En Angleterre, au siècle dernier, avait eu lieu à Londres un terrible incendie. Le 2 septembre de l'année 1666, le chiffre du diable, une petite boulangerie de Pudding Lane avait pris feu et durant les jours suivants, 13 200 maisons, 87 églises et beaucoup de bâtiments publics et la cathédrale Saint-Paul elle-même avaient été réduits en cendres. Or, apparemment, il y eut très peu de victimes. On avait attribué ce fait au pouvoir d'un septième fils qui aurait eu la vision de la catastrophe une nuit avant et aurait convaincu beaucoup d'habitants incrédules de quitter leur logis pour se réfugier dans la campagne environnante avant l'heure fatidique de minuit, ce fatal jour du 2 septembre. Les plus prévoyants avaient même emporté dans de petites charrettes à bras ou dans des baluchons de toile à matelas leurs modestes objets et pauvres hardes. L'anecdote avait traversé la Manche grâce au récit de nombreux témoins et les pouvoirs supposés des septièmes fils dans les familles nombreuses d'alors avaient été projetés sur les rejetons provinciaux. Baptistine, convaincue des pouvoirs de son dernier fils, ne doutait pas qu'il pût à son tour guérir les sourds, les aveugles, les boiteux, et qu'il bénéficierait même d'un don de double vue, comme le prétendait la légende. D'autant que, curieusement, lorsqu'il eut 7 jours, elle s'aperçut qu'il avait à la naissance du cou une petite tache brune ressemblant à une fleur, qu'elle avait tout aussitôt reconnue comme étant une fleur de lys. Et l'enfant avait été baptisé Dieudonné, comme l'avait été le roi Louis XIV. Il avait grandi, se laissant persuader de la chose, mais adolescent, il s'était tout bonnement découvert la foi du charbonnier. Fleury de Bellingen, un grammairien du XVIIe siècle, avait expliqué l'origine de l'expression par l'extrait d'un conte très ancien. Le diable, un jour, demanda à un malheureux charbonnier « Que crois-tu ?» Le pauvre R répondit « Toujours je crois ce que l'Église croit. » Le diable insista « Mais à quoi l'Église croit-elle » L'homme répondit « Elle croit ce que je crois. » Le diable eut beau insister, il n'en tira guère plus et se retira confus devant l'entêtement du charbonnier. Don exceptionnel ou pas, le curé s'était aperçu qu'il avait une propension certaine pour sonder les cœurs et les âmes, ce qui l'aidait beaucoup dans son ministère. Il savait discerner avec certitude les bonnes intentions de ses paroissiens ou leurs torses motivations, avers et revers des âmes.
« sit mihi magna. Sit mihi magna, qui potens, qui potens est. Et sanctum nomen eius, quia fecit mihi magna, qui potens est. Et sanctum nomen, sanctum nomen eius.
Dieudonné Couette connaissait depuis toujours le duc de la Doucelle, dont il était le contemporain et l'ami fidèle. Et il avait appris à connaître aussi sa très jeune épouse, depuis leur mariage qu'il avait célébré lui-même dans la chapelle du château quelques années auparavant. Directeur de conscience et confesseur des deux époux, il était en outre au fait de leur vie commune et de leurs sentiments. Il savait bien leur attachement mutuel. Profond et tendre, il savait aussi de quel dévouement la jeune femme de 15 ans avait fait montre envers son mari pendant les 5 années de leur vie commune. Quel bonheur avait ressenti le duc à vivre près de Marie-Angélique ces années heureuses, qu'elle avait rendues joyeuses et gaies, et quel chagrin, enfin, avait été le sien lors de la brusque mort de Louis, lorsqu'il avait passé, à cause de son cœur fragile, ainsi que l'avait dit le docteur Aubert, à l'heure du thé, dans le salon bleu, au moment où le soleil disparaissait derrière les arbres du parc. Il s'était éteint paisiblement, en cette fin d'après-midi du dernier jour d'octobre, avec un sourire sur les lèvres, dans les bras de sa jeune femme. Ainsi que la duchesse lui avait fait justement remarquer, le seul regret de son époux était qu'il n'avait pu avoir d'héritier. Avec une noblesse qui venait des croisades, il était le premier de sa lignée à ne pouvoir transmettre son titre et son histoire à un héritier mâle qu'il désirait ardemment. Sa peine était immense. Il avait l'impression d'avoir manqué au devoir qu'il avait vis-à-vis de ses ancêtres, et cela le tourmentait beaucoup sans qu'il puisse le moins du monde se résigner. Le curé était conscient de tout cela et il avait longuement débattu de l'affaire avec sa conscience d'abord et ensuite avec le Christ en croix de son église accroché à la voûte du cœur. Jésus penchait sa tête couronnée d'épines et son regard doux vers les pauvres mortels, comme pour les aider dans leur propre malheur et leur donner l'espoir de la rédemption. L'abbé Couette avait parlé à la statue, comme il le faisait souvent la nuit, dans son église, plongée dans la pénombre, alors qu'un rayon de lune perçait le vitrail de Saint-Martin et illuminait le cœur, lorsqu'il était en proie au doute ou au découragement, en prière, agenouillé devant lui, les yeux levés, implorant son aide. Et toujours, il pensait que le Christ l'aiderait à comprendre ce qui était bien ou mal, avec des nuances que le vieux prêtre était persuadé d'interpréter au mieux dans le secret de son cœur. En l'occurrence, l'affaire qu'il portait devant la statue cette nuit-là était particulièrement compliquée à ses yeux. Il était tiraillé d'une part entre l'amitié qu'il conservait au duc par-delà la mort, l'affection réelle qu'il portait à la duchesse, et d'autre part, l'importance de sa mission qui consistait à tenir scrupuleusement le grand livre des naissances et des morts dans la sacristie. Or, elle lui demandait de faire une simple erreur sur le seul chiffre de l'année. L'enfant devant naître en 1757, il suffirait simplement en inscrivant sa date de la naissance d'écrire un 6 au lieu d'un 7. Quelle importance cela aurait-il, si ce n'est pour lui d'être fidèle à l'amitié par-delà la mort ? Les 2 heures sonnaient au clocher lorsqu'il rentra au presbytère de l'autre côté de la place, certain que la nuit allait lui porter conseil. postée derrière la fenêtre du salon, Marie-Angélique voyait descendre de voiture l'abbé Couette, avec la grande cape noire qui l'enveloppait et son chapeau à large bord plat. Il avait dit à Madame Franjoux, qui chaque matin assistait à la première heure à sa messe basse, qu'il viendrait au château pour parler à la duchesse d'une affaire qui ne souffrait pas de retard. Il était presque midi et elle avait fait préparer pour le vieux prêtre une collation qu'il partagerait. Il entra en saluant la jeune femme avec affection. Dans la bibliothèque, elle remarqua son air grave et redouta soudain d'entendre ce qu'il avait à lui dire. « Ma chère enfant, je n'irai pas par quatre chemins. J'ai beaucoup réfléchi, et longtemps, à votre demande si étrange. Je ne peux, hélas, prendre conseil de ma hiérarchie, puisque ce que vous m'avez confié l'a été en confession. Donc, il a bien fallu que je tente de résoudre ce problème, votre problème, avec mon seul bon sens, et que je vous donne mon sentiment sur cette affaire compliquée. » « Je vous en prie, monsieur l'abbé, ne me faites pas languir. Qu'avez-vous décidé ?»« Par amitié pour le duc, j'accède, madame, à votre requête. Malgré tous mes scrupules et tous les remords qui ne manqueront pas de m'assaillir, j'ajouterai une ligne sur la page de l'année passée lorsque l'enfant sera né. Je me serai tout bonnement trompé de page et j'essaierai ensuite de ne plus y penser jamais. » Marie-Angélique prit la main du vieil homme et la baisa. « Merci infiniment. Vous n'aurez pas affaire à une ingrate, vous pouvez en être sûre. » Elle ajouta, « Voudriez-vous venir dire une messe qui pour moi sera une messe d'action de grâce dans notre chapelle ? Tous ceux qui vivent au château y assisteront, et je pourrai ainsi remercier Dieu de vous avoir inspiré. » Le curé sourit. « Laissez Dieu, ma chère, en dehors de tout cela. Il est certain que l'affection profonde que j'ai pour votre famille et depuis tant d'années a joué un rôle très important, très difficile à prendre, croyez-le. Espérons que je n'aurai jamais à m'en repentir. » Marie-Angélique ne put réprimer un énorme soupir de soulagement. « Maintenant que tout ceci est réglé, déjeunons, voulez-vous ?» Anne les rejoignit dans la salle à manger et ils partagèrent leur repas en devisant plus légèrement de choses et d'autres. Du vin que Charles leur servait avec le poulet grillé et les pommes de terre au lard que le curé affectionnait particulièrement. Un bourgogne blanc que le duc faisait parvenir au presbytère pour servir de vin de messe. Et la duchesse avait bien sûr continué fidèlement ses envois, ce qu'il appréciait beaucoup. « Après tout, disait-il, le service de la messe mérite mieux qu'une piquette. » Anne parla de leur amitié et de son départ proche. Elle raconta aussi tout ce qu'elles avaient partagé à la cour de Versailles. Plus elle parlait, plus le curé ouvrait de grands yeux, semblant les imaginer vivre là-bas comme sur une autre planète, ce qui était un peu vrai. Après les desserts, délicieux comme toujours, Marie-Angélique raccompagna le prêtre jusqu'à sa voiture. Plein de sollicitude, il s'enquit de sa santé. « Allez-vous tout à fait bien, mon enfant ? Le docteur Aubert s'occupe-t-il bien de vous ? » ?»« Je vais très bien, et tout mon entourage me choie et me protège. Je fais très attention à ma petite personne, soyez-en sûre, » ajouta-t-elle en riant. « Bien, bien, je viendrai après-demain dire la messe, si cela vous convient naturellement. Au revoir, ma chère enfant. Au revoir, monsieur le curé, et encore merci. » À peine la voiture disparut dans le chemin, Anne se précipita vers elle avec un air interrogateur, mais en voyant le large sourire de son amie, elle comprit que tout irait bien désormais. Anne et Marie-Angélique s'affairaient dans la chapelle avec deux soubrettes de bonne volonté, chiffons et balais à la main qui lavaient le carrelage à grand dos. Elles avaient ressorti des grands placards la nappe d'autel brodée de croix et d'épis de blé au fil d'or qui avait servi pour le mariage du duc et de la duchesse. Et en la disposant avec précaution sur l'autel, Marie-Angélique songeait à l'état d'esprit dans lequel elle était ce jour-là. le sentiment de crainte le disputait à la colère d'avoir été obligée par son père à cette union qu'elle ne désirait aucunement. C'est Louisette qui l'avait habillée et elle se regardait maintenant dans le miroir de sa chambre sans croire à son reflet, en se voyant vêtue d'une très belle robe blanche et d'un long voile de dentelle de Valenciennes offert par son futur époux et paré d'un somptueux collier de diamants qu'il avait fait déposer le matin même des noces sur la coiffeuse de la jeune femme, avec un courbillet. « Faites-moi la grâce, madame, de porter ce bijou. J'ai pensé qu'il sublimerait à merveille votre beauté. » Louis. Elle entrait dans la chapelle ce matin-là au bras de son père, qui marchait droit et fier, et qu'elle ne regardait pas, et passait près de sa mère, habillée de noir comme toujours, l'allure revêche, le regard froid et dur, qui baissa les yeux sans paraître même la voir. Et puis, elle était arrivée devant cet hôtel, près du duc, qui avait saisi sa main, donnée par son père, et elle avait vu dans son regard toute l'adoration qu'il lui portait. Il souriait, d'un sourire tendre et rassurant, visiblement ébloui par l'apparition radieuse et virginale qui se tenait à ses côtés. Elle avait tout vu dans ce regard, la gratitude, le bonheur, l'admiration, et elle s'était soudain reprise à espérer. Aux questions de l'abbé Couette qui officiait, ils avaient répondu « oui » à tour de rôle. Louis, d'une voix forte et assurée, et Marie-Angélique d'une toute petite voix, et s'étaient signés ensemble pendant la bénédiction que leur avait donnée le prêtre. Elle avait entendu, sans même les écouter, les quelques mots qu'il avait prononcés, une homélie courte et chaleureuse, et elle était ressortie de la chapelle au bras de son mari. La journée était passée comme un rêve. Un dîner raffiné avait été servi aux 200 invités. Noblesse provinciale et amis de Versailles, assis par petites tables juponnées de nappes blanches, surmontées de bougeoirs et d'un bouquet bas. Dressé avec le précieux service de 300 pièces en porcelaine de la manufacture de Vincennes à fond bleu céleste, rehaussé d'or, à ailes ajourées, dont la décoration polychrome centrale figurait des oiseaux au milieu d'un paysage champêtre. Les verres et le vin s'invitaient à table dans un souci de raffinement et d'élégance. Plusieurs verres, tous en verre soufflé, les plus hauts à jambes, de forme évasée, gravée à la meule aux chiffres du duc et décorée de rinceaux fleuris et de guirlandes de feuilles de vigne. Des gobelets pour l'eau et des verres cornés pour le champagne étaient disposés en face de chaque convive. 30 laquais en livrée bleu nuit, gancée, servait sur de grands plateaux d'argent les 20 tables en même temps, tandis que des échansons remplissaient les verres de vin les plus prestigieux provenant de la cave des Ormeaux. Bourgogne capiteux, Sauterne merveilleux, Château d'Yquem au reflet d'or et le vin de champagne de Dom Pérignon frais et pétillant. Après les foie gras aux figues, on avait servi des suprêmes de poularde de louée à la crème truffée et aux morilles, puis les crèmes à la vanille bourbon et aux pistaches, et enfin, les pâtissiers avaient construit un immense gâteau de plusieurs pieds de hauteur, en sucre, pâte d'amande et biscuits, décorés de roses, elles aussi en sucre, qu'apportaient sur un chariot 4 laquais. Un quatuor jouait dans le grand salon rose et bleu les gavottes, chaconnes, bourrées et autres sarabandes qui avaient fait danser et tournoyer sous l'immense lustre de cristal aux 56 bougies les jolies robes des dames et les beaux habits des gentilshommes tard dans la nuit. Louis et Marie-Angélique, assis l'un près de l'autre à la table d'honneur, avaient dîné en compagnie de leurs hôtes les plus prestigieux, puis avaient entrepris d'aller saluer tous leurs amis en s'invitant tour à tour à chaque table. On les embrassait, les félicitait, les enviait aussi. Ils étaient ensuite allés rejoindre les danseurs pour une contredanse. Marie-Angélique se souvenait du départ fort tard des invités, de ce moment qui lui avait paru très long, où ils étaient restés côte à côte, toujours souriants, saluant tous ceux qui partaient et remontaient l'allée illuminée par des torches jusqu'au grand portail. Elle se souvenait aussi de ce moment où il lui avait baisé la main. « Vous avez été parfaite, et je vous en sais gré infiniment. » « Merci, Louis, vraiment, oui, ce fut une belle journée. » « Je pense, ma chère, que vous devez être épuisée. Je vais vous laisser regagner votre chambre avec votre soubrette. Si vous le permettez, je viendrai vous saluer et vous souhaiter bonne nuit. » Elle acquiesça et monta le grand escalier. Louisette l'attendait dans la chambre et lui ôta aussitôt sa longue robe blanche avec précaution. Puis elle revêtit son vêtement aussi blanc que sa robe de mariée. Très lasse, soudain, elle se glissa dans ses draps brodés au moment même où le duc frappait à sa porte. « Puis-je entrer, madame ?»« Je vous en prie. » Louis entra, vêtu d'une robe de chambre, d'une chemise blanche et de culottes de velours. Il s'assit sans façon sur la couverture en souriant. Instinctivement, elle avait remonté le drap jusqu'au menton. « Marie-Angélique, je ne sais ce qu'on a pu vous raconter sur le sujet, mais je voudrais vous dire simplement que rien ne vous arrivera jamais que vous n'ayez souhaité. » Pour ce soir, je suis, moi aussi, très fatiguée. Me permettez-vous de m'allonger près de vous ? Mais oui, bien sûr. Ils se parlèrent très longtemps, de tout et de rien. Les yeux de la jeune femme se fermaient malgré elle. Il se pencha, lui effleura les lèvres, et elle s'endormit contre son épaule. Il s'endormit aussi, au bout d'un très long moment, et il lui avouerait, beaucoup plus tard, qu'il avait passé une très grande partie de la nuit à la regarder dormir, émerveillé de ce qu'elle fut enfin sa femme. retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de ma saga Les Lumières de l'Amour sur les ondes de Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon email personnel france.guimard.roche@gmail.com.